de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93. Québec. Le FM 93 présente Deux hommes en ondes. Avec Paul-Raphaël Charon et Jonathan Bernard. Lundi au vendredi, 11h. Deux hommes en ondes. Commence maintenant.
11h pile, bonjour à tous, bienvenue à Deux Hommes en Ondes. Dernière de la semaine et émission, mais tellement spéciale. Vous vous doutez pas de ce qui vous attend pour cette émission-là aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est vendredi et c'est le 13 décembre, vendredi 13. Mais c'est-tu pas extraordinaire? Maintenant ça, la page est tournée. La deuxième raison pour laquelle cette émission-là est extraordinaire, c'est que le jingle a menti. Je ne suis pas en compagnie de Jonathan Bernard. J'ai l'honneur d'accueillir pour les trois prochaines heures autour de la table avec moi nul autre que François Thérien. Bonjour François.
Bonjour Paul-Raphaël. Que d'égards. C'est incroyable.
Wow. C'est le wow. C'est presque une surprise. Voilà. Vous vous surprenez vous-même.
Merci Monsieur Rapaille. Vous avez reconnu François, notre recherchiste intersidéral, mais aussi météorologue amateur. Météorologue émérite, honoris causa.
Et voilà.
Là, François, par contre, j'espère que tu vas faire tes bulletins météo autour de la table.
Oui, bien sûr. Là, dans ta face, comme okay, on dit en bon français.
J'ai eu peur. Mais je fais des blagues, mais sincèrement, François, je suis content qu'on fasse l'émission ensemble aujourd'hui.
Oui, c'est une première.
Bon, évidemment, depuis que le contrat de Jeff Blanchette s'est terminé, il y a un jeu de chaises musicales qui s'opère, animé avec Jonathan Bernard, mais François... Il faut que vous sachiez qu'on travaille ensemble, nous, depuis le début de Deux Hommes en Ondes. François, il fait pas juste la météo, au contraire, c'est comme le pilier de l'émission parce que c'est lui qui prépare avec nous, qui book toutes les entrevues, prépare les documents de recherche. Fait qu'on prépare toute cette émission-là ensemble, les choix de sujets, les choix d'intervenants et compagnie. Mais là, de t'avoir autour de la table, François, ça me fait oublier la grisaille de décembre.
Mon Dieu Seigneur!
Non,
j'ai de la pression, moi, là, soudainement. Là.
Non, écoute, on va avoir du fun, c'est vendredi sûrement. En plus. Je suis de bonne humeur. Même s'il y a quand même des nouvelles sérieuses, des nouvelles importantes, mais elles ne viendront en rien briser mon bonheur resplendissant.
Donc, on peut dire que le vendredi 13, là, la malchance de la journée, c'est pas moi. C'est déjà bien parti.
Exactement.
C'est bon.
Je veux, François, d'emblée, on casse la glace sur notre collaboration avec une nouvelle, peut-être la nouvelle la plus importante là, qu'il y a eu dans les 24 dernières heures. Puis je dis 24 parce que ça fait presque 24 heures. C'est sorti à peine quelques minutes après que nous, on soit sortis des ondes hier. C'est la Cour d'appel du Québec donc qui a refusé de suspendre certains articles de la loi 21 sur la laïcité. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas en train de juger de la constitutionnalité de la loi 21. C'est certains groupes qui voulaient faire suspendre des articles de la loi en attendant qu'on se penche sur la constitutionnalité puis donc sur l'avenir de la loi sur la laïcité, c'est ça?
En fait, la genèse de tout ça, là, c'est une étudiante en enseignement et une association musulmane qui ont contesté la validité de la loi 21 là, lorsqu'elle a été déposée. Et cette cause-là va être entendue en octobre de l'année prochaine, octobre 2020.
C'est ça.
Mais d'ici là, ils voulaient que la loi soit suspendue.
Voilà.
Alors, ils se sont adressés à la Cour supérieure qui a rejeté leur demande et ils sont pas découragés, ils sont allés en Cour d'appel. Et la Cour d'appel aussi rejette la demande. Sauf qu'en Cour d'appel, il y a trois juges.
Exact.
Et c'est une décision partagée. On pourrait parler en termes de boxe. Là.
Oui.
Il y a deux juges qui ont décidé de rejeter la demande, puis il y en a une qui a accepté. Et celle qui a accepté, c'est celle qu'on connaît le mieux, là, la fameuse juge en chef, Nicole Duval-Essler,
oui.
Qui a été, disons, qui s'est fait tirer dessus pas mal là, par certains groupes individus, parce qu'elle s'est pas mal étirée le cou à un endroit où elle aurait peut-être pas dû.
Oui, j'aime l'image, parce que à deux occasions, elle avait été critiquée. D'abord, les termes exacts qu'elle avait utilisés, c'était une allergie...
Oui, c'est ça, une dérangeante. Là. Je pense que c'était une loi dérangeante. Là. Allergie visuelle.
Allergie visuelle, donc aux signes religieux et tout ça. Là, les gens avaient dit un instant, là, la juge qui est censée être impartiale parle d'allergie visuelle. C'est tellement suggestif, ça fonctionne pas. L'autre affaire, c'est que... elle aurait parlé de en discutant avec des gens de l'une des deux parties là, je pense que c'était les gens de la couronne dans cette affaire-là, elle avait dit hey, en tout cas si vous avez besoin de conseils, je prépare ma troisième carrière, si vous avez besoin d'un arbitre, d'un modérateur. Là les gens avaient dit ben elle est pas impartiale, vous voyez bien qu'elle est de mèche avec les gens de la couronne.
En fait l'histoire c'est qu'elle prend sa retraite au mois de mars, voilà. La juge Duval-Essler, puis elle a dit à l'avocate, en fait c'est l'avocate de la poursuite, c'est celle qui représente là, ceux qui contestent la loi 21. Puis elle a dit ben moi je m'en vais à la retraite. Là, je prendrais bien des petits contrats avec vous autres. OK, là, mais t'aurais peut-être pu dire ça dans une pause, mettons là, à l'heure du dîner, ouais. Là, ou mettons... dehors en train de fumer une cigarette. Là.
Oh, je sais pas. Là, elle aurait pu se garder une petite gêne. Évidemment, ben, parmi les gens qui étaient satisfaits de ça, il y avait Yves-François Blanchet du Bloc québécois.
C'est ce qu'on espérait comme résultat. Nous, on a assez peu d'appétit pour les enjeux judiciaires autour de la loi 21. On souhaiterait qu'elle ne soit simplement pas contestée. On continue à insister pour que le gouvernement signifie aux organisations qu'il finance que l'argent de l'État canadien et donc des Québécois ne doit pas servir à financer des démarches contre l'État québécois et une loi légitime de l'Assemblée nationale du Québec.
Je veux pas faire de peine à M. Blanchet, mais je pense que ça va être effectivement contesté. Là. En fait, quand on lit les décisions, l'article de Yves Boisvert dans la presse est excellent ce matin. Là. Quand on lit les décisions des juges, il y en a un là, qui est assez virulent. Puis même, il dit, d'après moi, ce juge-là, là, il lançait une petite pointe à la juge en chef. Il doutait qu'elle serait dissidente. Mais il y en a une autre qui s'appelle Dominique Bélanger, qui, elle, a dit « Les tribunaux ne suspendront pas une loi adoptée par une législature sans en avoir fait un examen constitutionnel complet. »
Ben, c'est ça.
Alors, dans le fond, là, la clé de jugement-là, là, je pense que celle qui résume le mieux la situation, c'est elle.
C'est ça.
Là, dans le fond, elle a dit « On se calme les nerfs, là, on va regarder vraiment la constitutionnalité de A à Z. »
Voilà.
Puis là, on pourra prendre une décision.
Mais là, on ne commencera pas à relever à revirer toutes les roches, puis à dire « Ouais, mais si, mais ça, en attendant que ce travail-là soit fait. »
En fait, c'est ça. La législature a adopté une loi. C'est son devoir, c'est son travail à elle. Alors, une fois que ça, c'est fait, nous, on regarde la loi comme il faut, puis on verra si on la rejette ou non, mais pas avant.
Il y a une roche, moi, dans mon soulier depuis quelques semaines, là. Et cette roche-là s'appelle Brian Pallister.
Non, le premier ministre Manitoba.
Le premier ministre du Manitoba, qui, il y a quelques semaines, avait... on en avait parlé, mais il y avait... Le gouvernement manitobain avait envoyé une campagne de pub dans les médias ici au Québec, où il disait essentiellement aux fonctionnaires du Québec, hey, « En tout cas, là, si vous voulez venir travailler quelque part où on respecte les droits fondamentaux des gens, venez-vous-en au Manitoba. » On en riait parce que, sincèrement, il va falloir qu'ils nous le vendent, le Manitoba.
Ouais, les droits fondamentaux des gens. Est-ce qu'on a un extrait de Louis Riel? Non, c'est pas ça, hein? Malheureusement.
Mais le jeu auquel joue M. Pallister, là, je vais te dire une affaire, là, dans un article de la presse canadienne, là, ça, c'est d'un ridicule consommé. Là, son nouvel argument là, à M. Pallister, qui, grosso modo, a déclaré hier que son gouvernement interviendrait probablement dans l'éventuelle contestation en Cour suprême de la loi sur la laïcité, là, ce dont on parle donc pour octobre 2020. Là. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça nuirait à la réputation du Canada sur la scène internationale. Ce qu'il a dit précisément, je le cite, « Lorsque notre réputation à l'échelle mondiale est menacée par de telles initiatives, nous devons nous lever. » Moi, j'aurais eu envie de demander à M. Pallister, la France, c'est un beau pays, ça, la France, 60 millions ou quelques d'habitants. La France, est-ce qu'ils ont une bonne réputation ou une mauvaise réputation sur la scène internationale, M. Pallister? Parce que la France, ils ont une loi très semblable à la loi 21 chez eux.
Et pas juste la France.
Puis pas juste la France, mais même pour eux, parce que comme je reviens de voyage là-bas, moi, j'en ai parlé avec des gens là-bas. Puis eux suivent ça un peu. Puis quand je leur résumais, grosso modo, c'était quoi les points de la loi, ils disaient, ah ouais, c'est rien que ça. Ils trouvent que c'est de la petite bière, là. Ils la trouvent molle un peu, notre loi, les Français.
Imaginez.
Et là, M. Pallister a dit, je le cite encore, « Et les Manitobains l'ont toujours fait, à la crête de Vimy, sur les plages de Normandie, dans les déserts de l'Afghanistan, et oui, à la législature et à la Chambre des communes, nous ne reculons pas lorsque les droits d'autrui sont menacés. » Hey, un instant. Voilà, c'est fait. Il est tombé dans le ridicule. Comparer la loi 21 à la Deuxième Guerre mondiale par la guerre au terrorisme, là.
C'est ridicule.
Monsieur Pallister.
Ouais, lisez l'histoire du Manitoba, là, puis on en reparlera après.
Non, mais tu sais, c'est d'un ridicule absolument consommé. Là, quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, non, mais là, sincèrement, là. Là, envoyez-nous des pubs si vous voulez recruter chez nous. Dans le fond, là, tu sais, c'est de bonne guerre, là. Vous voulez recruter des fonctionnaires, allez-y, pas de problème, là. Mais ça, là, les Manitobains l'ont fait sur les plages de la Normandie. On va les défendre le Canada à l'international. Lâchez-moi,
c'est
là.
C'est de la démagogie. Ça, là, c'est une prise de position qui est populaire parmi les gens là-bas, là. Il y a prêt.
C'est ça.
C'est carrément ça.
Bon, maintenant qu'on est dans la loi 21, signes religieux, contestation judiciaire et compagnie, on va rester dans une histoire qui a commencé par du judiciaire, mais qui est aujourd'hui très politique. C'est Jody Wilson-Raybould. Ex-ministre fédéral de la Justice, Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Vous connaissez l'histoire. SNC-Lavalin, est-ce qu'il doit y avoir un procès au criminel? Oui, non. Justin Trudeau est-il intervenu? Oui, non. Pour essayer de faire des pressions sur la ministre de la Justice. Claque la porte, se représente aux élections, est élu comme indépendante dans Vancouver-Granville, là, dans Colombie-Britannique. Et là, l'affaire, c'est que Mme Wilson-Raybould, quand elle était ministre de la Justice, occupait un bureau, un grand bureau, avec différentes salles, là, pis des parce qu'elle avait des employés, beaucoup de gens qui travaillent pour le cabinet de la ministre de la Justice. Là, quand elle est partie du Parti libéral, qui l'a claqué la porte, le parti a dit, regardez, Mme Wilson-Raybould, vous pouvez garder votre bureau, là, on va pas vous chasser de votre bureau jusqu'aux élections, parce que là, ça s'en vient. Mais là, les élections sont passées, elle est élue comme indépendante, et là, on lui dit, oui, mais là, il faudrait que vous nous cédiez votre bureau parce que là, nous, on a un ministre, le ministre des Affaires du Nord, en l'occurrence, M. Dan Vandal, là, qui est censé occuper cette suite-là. Mme Wilson-Raybould dit, non, c'est mon bureau, vous le laissez pas. Là, le Parti libéral a dit, oui, mais là, c'est parce que nous, on en a besoin de ce bureau-là. En théorie, c'est quelque chose de normal là, de quitter son bureau, d'aménager ailleurs là, quand t'es en politique. C'est des choses qui se font, mais très régulièrement. Madame Wilson, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi ses motivations, mais elle a décidé qu'elle, non, elle quittait pas son bureau.
Est-ce que tu me permets de parodier Ron Fournier?
Ah, oui, donc, ben, je demande juste
plus ça. Plus capable. Elle, là, je suis plus capable. En fait, là, l'histoire derrière ça, c'est que ce type de bureau-là, là, ces grands bureaux-là, il n'y en a pas un tas au Parlement à Ottawa. Alors, c'est pour ça qu'évidemment, ils réservent aux ministres, parce que les ministres, ils ont plus de personnel qu'un député, surtout un député indépendant. Puis la règle, ben c'est ça. Le parti au pouvoir choisit de placer ses ministres, puis après ça, c'est les députés, puis on descend, opposition, deuxième opposition, troisième opposition, puis après ça, on arrive aux indépendants. Puis il y a une clause, entre guillemets, d'ancienneté, là, qui n'est pas écrite, mais c'est une loi non écrite. Mais elle, là, Mme Wilson-Raybould, Madame, a décidé que non, ça s'applique pas à elle, ça, non. Moi, je suis dans ce bureau-là, je reste dans ce bureau-là. Moi, je pense que cette dame-là, là, elle s'est rendue célèbre par la cause SNC-Lavalin, là,
oui.
Où elle a décidé de tenir son bout. Je pense que sur certains aspects, elle avait raison, mais il a été évoqué à l'époque que c'était pas une facile.
Ouais, c'est
ça. Elle voulait pas entendre les avis, puis qu'elle était un peu, comme on dit en bon québécois, boquée.
Elle avait peut-être un sale caractère par
c'est
moment.
C'est ça. Ben là, si vous en doutiez, vous avez pas mal la preuve.
Il y a des auditeurs qui commentent la situation et ils rejoignent absolument ce point de vue-là. Hein? La vraie nature de Mme ressort, quel manque de jugement, nous dit-on, quel discrédit. Tu sais, moi, si on exclut à 100% l'histoire de SNC-Lavalin, qui est vraiment... un scandale à part entière, puis une histoire qui a tous ses paramètres, là. Ça, c'est complètement autre chose. Mais c'est vrai que ça en dit long sur l'histoire. Écoute, ce qu'elle dit, c'est, je la cite, « Cela me semble un peu mesquin », elle a dit ça à CBC News, « Cela n'a aucun sens de me retirer mon bureau de député, donc je ne comprends pas pourquoi ils veulent le faire. » Ben voyons.
On vient de l'expliquer, là. C'est assez clair, là.
Mais c'était votre bureau de ministre.
Ben, c'est ça, là. Elle n'est plus ministre.
La raison est simple. Le ministre qui s'en va là, le ministre des Affaires du Nord, là, il y a plein d'employés, puis il faut que ces employés aient un petit carré de bureau pour mettre leurs feuilles, puis leurs brocheuses, puis leur ordinateur pour travailler. Mais vous, comme député indépendant, vous n'aurez jamais autant d'employés qu'un ministre, là. Oubliez ça.
C'est juste logique, là.
C'est complètement simple. Donc, bref, Mme Wilson-Raybould qui refuse de céder son bureau. Ça peut paraître assez banal, là, mais moi, je trouve effectivement ça en dit long sur la personne. François? Il y a un autre dossier, et là,
ça, c'est mon préféré.
Sais que ce dossier-là... Non, mais vous n'avez pas idée comment François suit ça attentivement depuis le début de la matinée.
Oh que oui!
Le F.A. Gauthier est en mer, en direction de Matane.
Oui, il s'en va à Matane.
Et là, François a trouvé le moyen de le suivre en temps réel.
Oh que oui!
Il est rendu où?
Là, il est au large de... Il approche de Rivière-du-Loup.
Es-tu inquiet? Ouais.
Oui, je suis inquiet parce qu'il va beaucoup trop vite.
Ah oui?
En fait, je suis sur un site, c'est merveilleux ce site-là, ça s'appelle marinetraffic.com.
Okay.
Ça, là, partout dans le monde, vous pouvez suivre les navires où qu'ils soient. Vous pouvez en suivre un en particulier ou ça vous tente de suivre les navires sur le Saint-Laurent. Vous allez sur ce site-là puis vous cliquez sur la carte du fleuve Saint-Laurent. Puis là, ça vous donne tous les navires, d'où ils sont partis, où ils vont. Quel type de bateau c'est? Cargo, pétrolier, paquebot ou traversier dans le cas du FA Gautier?
Faites juste,
et leur vitesse.
Faites juste vous imaginer en ce moment, quand vous écoutez François, les yeux d'un enfant qui déballe sa console de jeu le 24 au soir pendant le réveillon, là, et vous allez avoir l'image parfaite de François qui suit le FA Gautier.
Voilà. Alors, il est parti de Lévis vers 7 heures ce matin. Alors là, évidemment, quand le FA Gautier est en mer, tous les navires de la planète sont alertés. On sait jamais ce qui peut arriver.
Dansez-vous!
Oui, le FA Gautier s'en vient. Puis, je pense que le capitaine il a décidé de le tester. Il roule à 21 nœuds, ce qui est 40 km/h.
C'est vite,
c'est vite, là. Pour, c'est rare que des bateaux vont à cette vitesse-là. Il y en a quelques-uns qui sont autour de lui, là, puis il n'y en a pas un qui va à cette vitesse-là. Là. Le capitaine, là, je pense qu'il a mis sa calotte à l'envers, puis envoyez donc, on part, on s'en va à Matane, pas de temps à perdre, vite,
ben,
on se dépêche. Il s'est peut-être dit... Regarde, s'il a lâché, là, il va lâcher avant qu'on arrive. Sinon, ben, ça veut dire qu'il est prêt pour faire ses traversées. Alors, tenez-vous là pour dire, le FA Gautier fonce à tombeau ouvert vers Matane. Il doit reprendre les traverses, je pense que c'est le 20 décembre, donc c'est vendredi de la semaine prochaine.
Ce qui laisse 11 jours pour que je puisse gagner mon pari. J'avais parié en onde que le FA Gautier allait se crasher, ou en tout cas, allait avoir des problèmes quelconques avant la fin de 2019. Donc... J'ai du 20 décembre jusqu'au 31. Ça me laisse 11 jours, ce qui est amplement suffisant.
Moi, la chose qui m'inquiète, que quand je regarde la carte, mais évidemment, elle est à petite échelle, là, mais il s'en va directement sur une île. Il y a une île sur la carte, c'est l'île Blanche. C'est la grande île qui est face à Rivière-du-Loup. Quand vous prenez le traversier Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, on contourne cette île-là. Là, puis là, d'après sa direction, il s'en va carrément dessus. J'imagine qu'il va virer de bord à un moment donné, là, mais en tout cas. Là,
j'ai espoir.
Le connaissant, ce bateau-là, on peut être inquiet un peu.
J'ai espoir pour mon pari. Écoute, il y a plusieurs théories. Un auditeur nous dit que c'est à cause du fort courant. Peut-être. Un autre qui dit que ça dépasse rarement 20 nœuds. Donc, en effet, c'est rapide. Et il y a Denise qui essaie de te rassurer. François a dit, garde, le FA Gautier, on s'inquiétera quand il y aura un quai à proximité. Avant ça, on se calme.
Ouais, peut-être. Ben, regardez, pour vous donner un exemple, il y a quelques bateaux à proximité du FA Gautier. Il y en a un qui roule à 14 nœuds. L'autre, il est à 12 nœuds. Puis le troisième, oh mon Dieu, lui, ça va pas bien, il est à 3 nœuds. Là. Il est petit bœuf, comme on dit en bon québécois. Là.
Ah,
mais le FA Gautier est pas mal le plus rapide sur le Saint-Laurent actuellement.
On nous parle de l'île aux lièvres.
Oui, c'est l'île aux lièvres. L'île Blanche est un petit... Oui, il a raison, le monsieur ou la dame. Là. L'île aux lièvres, c'est la grande île, puis il y a l'île Blanche qui est un petit peu plus loin, qui est plus petite. Mais c'est effectivement l'île aux lièvres.
C'est Patrice qui disait ça. Alors, Patrice et François, je vais vous échangerez vos numéros de téléphone.
Oui, tout à fait.
Vous jaserez d'île ensemble, si vous voulez.
Effectivement.
Pas que c'est inintéressant, c'est juste que, sincèrement, j'ai même aucune idée de où est-ce que ça peut être. Là, si tu me la situes, OK, je vais voir, mais île Blanche... Non, non, c'est pas l'île Blanche, c'est l'île aux lièvres. Je vous trouve fort en mon tête d'être capable d'y...
Parce qu'il y a deux îles qui sont collées, là, puis l'île aux lièvres, c'est effectivement la plus grande. Quand on est sur la vin, là, dans le coin de Rivière-du-Loup, là, on la voit très, très bien, cette île-là.
C'est vendredi 13, en plus.
En plus.
Alors, si ça se trouve, j'aurais pas besoin d'attendre 11 jours. Là.
Ils n'ont pas pensé à ça. Mettre le FA Gautier en mer un vendredi 13.
Hey, c'est incroyable.
Hein? Alors, on vous tient au courant, mesdames, messieurs, au fur et à mesure de l'émission de l'évolution du F.A. Gautier.
Ben oui.
Et qu'est-ce qui lui arrive?
Imagine s'il fallait qu'il y ait un chat noir en plus. L'auditeur qui dit, s'il croise un chat noir, t'es correct pour ton pari. Oh. Puis là, la bonne nouvelle, semblerait, c'est que les bateaux de la STQ sont assurés. Hein, il y a des assurances là, pour les bris, ces patentes-là.
Dans son
parce
cas,
que
j'espère.
Dans le journal de Québec... On recense, grosso modo, les coûts là, de la dernière aventure. Là. Maintien du service pendant que le FA Gautier est en cale sèche, 13,6 millions. Les travaux sur le FA Gautier, 10,3 millions. Soutien à la région, 630 000. La main-d'œuvre supplémentaire, près de 2 millions. Et d'autres dépenses là, qui font à peu près 2 millions. Total, c'est 27,13 millions. Mais il y a eu des revenus de 5,5 millions. Donc, on tombe à 21 quelque chose millions, là. Et je disais que les assurances à date ont été capables de récupérer avec ça à peu près 5 millions. Il reste quand même 15 millions dans le trou. Voyons voir si on va être capable d'aller chercher le reste. Mais il y a une chance qu'on a des assurances. Alors, c'est pas à pleine lune en plus.
Non, la pleine lune est passée, je pense.
Youh! Non, mais là, arrêtez. Là.
C'est pas hier, la pleine lune, d'ailleurs? S'il n'y a pas longtemps, là. Mais ça.
Là, les amis, c'est parce que nous autres, on a 3 heures de radio à faire. Là. Si le FA Gautier est en mer un vendredi 13 puis qu'une pleine lune... On va laisser faire les invités qu'on avait prévus, puis on va tout de suite appeler les gens de la STQ, les spécialistes en navigation. Là.
C'était hier, la pleine lune. Le 12. Heureusement.
Hey, on était chanceux. Avant de prendre une pause, juste un dernier petit mot, parce que cette semaine, on en a parlé du marché du Vieux-Port. C'était parce que François Marchand, là, qui était cet avocat spécialisé en urbanisme, là, qui essayait d'obliger la ville à garder les installations dans le marché du Vieux-Port. On sait que tout ça a été déménagé au Grand Marché, là, dans le coin du centre Vidéotron. Mais il n'a pas réussi. Il a décidé qu'il n'allait pas aller en appel la décision. Et la démolition du bâtiment qui abritait le marché sur quai Saint-André a débuté ce matin. Moi, je suis... Puis je vous parlerai pas de ça pendant une heure, parce qu'on a parlé beaucoup là, du marché du Vieux-Port. Mais moi, ça m'attriste beaucoup. C'est pas parce qu'ils détruisent les installations qu'il y aura jamais rien là. Je vous l'ai dit cette semaine, pour moi, un marché, c'est quelque chose qui tient dans un apparent abri tempo un peu plus long, tu sais, pour que les gens puissent s'installer puis vendre leur bouffe pas trop cher. Mais il reste que c'était quand même un bâtiment de Québec qui faisait... faisait le plaisir des gens du quartier, des touristes, la petite bâtisse bleue. Je trouve ça plate, moi, qu'on n'ait pas été foutu de garder ça là puis de faire un marché satellite là-dedans. Je suis convaincu qu'il y aurait eu du monde, puis je trouve ça plate. Donc, c'est aujourd'hui que la démolition commence, là.
J'espère que pour l'été, ils vont faire quelque chose de pas pire, là. Que ce ne sera pas juste un terrain vague où il n'y a rien. Parce que quand même un beau secteur de la ville, là. T'es face au bassin Louise, puis c'est beau, là. Il y a de l'eau, là.
Fait
quelque chose qui a de l'allure.
Au départ, on devait faire un marché satellite. Après, là, quand j'écoutais le conseil de ville l'autre jour à TV, ça parlait, je pense, la semaine passée, là, il parlait d'un espace vert et d'un parc, là. C'est le fun, les espaces verts puis les parcs. Moi, toutes les fois qu'ils veulent faire des places publiques, des affaires comme ça, je trouve ça le fun parce que c'est vrai, d'une certaine manière, que comme citoyen, quand dans ton quartier, il y a un nouveau parc ou un nouvel espace vert, ben, ça donne envie de s'approprier ces lieux-là. J'ai l'impression, moi, je crois à ça, que ça redonne la ville aux citoyens. Tu sais, ça a l'air d'être un beau proverbe, redonner la ville à ses citoyens. Mais moi, je crois en ça. Je trouve que ça marche. Je trouve que c'est important. Mais faire un parc dans le vieux... Tu sais, pour moi, c'était déjà un espace que les gens occupaient. T'as la piste cyclable, t'avais espace 400e où pendant bien bout de temps, il y avait des activités, là. Mais c'est un endroit où les gens allaient marcher. Tu sais, c'était déjà un espace intéressant à fréquenter, autant pour les citoyens que pour les touristes. C'est pas comme si tu transformais un endroit désaffecté, une usine, tu nettoyais ça puis que tu faisais un parc, là. T'sais, c'était déjà, cet espace-là avait déjà cette vocation-là, à mon avis. C'est que si on fait juste mettre des rouleaux de tourbe puis des tables à pique-nique, ben, pour moi, c'est pas suffisant. Je trouve ça plate. Les gens de ce secteur-là, en plus, ils ont aucun service. Il n'y a pas moyen de s'acheter une pomme entre le traversier puis cinq fois quasiment, là. Tu sais, ça fait que...
Il y a un supermarché dans Saint-Roch, c'est tout.
C'est ça. Mais entre le métro Saint-Roch puis le traversier puis même sur la promenade de Champlain, là.
Il n'y a rien.
Il n'y a pas moyen de s'acheter rien à manger. C'est souvent ça l'exemple qu'on donne, là. Tu peux pas t'acheter une pomme. On comprend que la pomme, on s'en fout un peu. Le principe, c'est, il n'y a rien que tu peux acheter là. Ça fait que... Je trouve ça dommage que la vocation de ce lieu-là, ça reste pas un marché de quartier, comme il y en a à Saint-Sauveur, comme il y en a à Limoilou, comme il y en a dans plein d'autres quartiers, puis que ce soit celui du Vieux-Port, c'est tout. T'sais. Ça fait que bref, c'est ça, la démolition du Grand Marché qui a débuté ce matin. On prend une courte pause, au retour, on revient sur les négociations dans la fonction publique, parce que on en est donc, c'est les différents syndicats de la fonction publique qui négocient avec le Conseil du Trésor pour essayer de se trouver des conventions collectives. Mais qui dit première ronde de négociation, dit aussi souvent des offres qui n'ont pas de bon sens, puis du monde ben en maudit. On revient là-dessus dans 5 minutes.